9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Florence, le 28 février de l'an 1429, il y a une foule nombreuse qui est là malgré le froid de l'hiver toscan, on est en février, foule nombreuse pour suivre le cortège funèbre d'un homme aimé du peuple, un banquier puissant qui avait été désigné comme chef du gouvernement, on dit gonfalonier à Florence, c'était un tirage au sort, c'est comme ça qu'on désignait les gouvernants à Florence. L'homme en question, celui qu'on est en train d'enterrer dans les pleurs et les regrets, c'est Jean de Médicis. Je vous rappelle que Florence était une république indépendante. Les ministres sont donc régulièrement tirés au sort parmi les riches membres des corporations. Ça, c'est pour la façade, parce que derrière la façade, il y a une oligarchie totalement tenue à l'époque par une famille, les Albizzi. Le banquier Jean de Médicis n'a pas voulu prendre le contrôle de la République. Oh, il aurait pu le faire à plusieurs reprises, mais il s'est contenté d'influencer très sagement le gouvernement. Il a obtenu des réductions d'impôts pour les plus pauvres. Il a obtenu la création d'un impôt foncier sur les plus riches. Et voilà comment il est devenu si populaire et pourquoi le peuple de Florence a vu en lui un protecteur. Et avant de mourir, Jean a fait venir à son chevet ses deux fils, Côme et Laurent, et il leur a dit « Soyez populaires, oh oui, soyez populaires autant que vous voulez, mais jamais ne vous mettez à la tête du peuple. » Sous-entendu, ne créez pas un parti populaire tel qu'on avait pu le connaître dans la Rome antique, n'est-ce pas ? Sauf que des deux fils, il y en a un qui est une espèce de force de la nature, il a 40 ans, Côme de Médicis, et lui a bien l'intention de faire tout le contraire, parce que lui, il ne vise qu'une chose, le pouvoir politique.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il a été très bien élevé, Côme de Médicis. Il a reçu une éducation humaniste. Il est déjà à la tête de la banque familiale depuis 9 ans lorsque meurt son père. Il est doué, c'est un grand négociateur, un fin politique. Son père d'ailleurs l'a envoyé en ambassade, enfin en émissaire, à Venise, à Rome, en France, jusqu'en Allemagne. Et désormais, la banque Médicis, grâce largement à Côme, fait crédit au roi d'Angleterre, fait crédit au pape en personne et bien sûr à toutes les grandes maisons de Florence. Voici ce que nous dit Henri Pigaïen dans « Les Médicis » qui était paru chez Pygmalion en 2015. Je le cite « À l'exemple de son père, Côme prend soin de mettre ses florins au service de concurrents endettés, gardant à l'esprit qu'il peut s'en faire de précieux partisans. Sa maîtrise de banquier assure à ses affaires un développement continu. Son projet de conquête de la ville par l'argent se dessine et quand les choses lui paraissent prêtes, eh bien Côme passe à l'offensive politique. Et il attaque de front cette oligarchie au pouvoir. Il va critiquer la guerre engagée contre le duché de Luc, irréductible duché de Luc. Là, on est à l'ouest, dans la Toscane. Duché soutenu par le duc de Milan, qui est le grand rival de Florence au nord. Ce conflit ruine les Florentins, martèle Côme. Et le gonfalonier trouve qu'il en fait beaucoup. Donc il le convoque au palais de la Seigneurie, Palazzo Vecchio. Quand même, les amis de Côme l'encouragent à se montrer méfiant. N'y va pas, c'est un piège. Ils veulent te perdre. Sauf que Côme balaie les avertissements. Il se rend au Palazzo Vecchio et immédiatement, ce qu'il va arriver arriva. Les gardes l'arrêtent, l'enferment dans la haute tour. Vous savez, si vous êtes allé à Florence, vous avez pu mesurer cette tour gigantesque. Côme, néanmoins, connaît tous les usages de Florence. Il sait que ce qui pourrait arriver, c'est qu'avant même qu'on ne le juge, il soit assassiné. C'est la raison pour laquelle il refuse d'ingérer la moindre nourriture. Il n'a pas envie d'être empoisonné. Et ça va durer comme ça pendant 3 jours, pendant lesquels il n'avale rien. Le temps de trouver une parade, parce qu'il a une arme secrète, si je puis dire. Il a cousu dans toutes les doublures de ses vêtements de belles pièces d'or. Et c'est ce qui va lui permettre de soudoyer son geôlier pour faire passer des messages et continuer à communiquer avec l'extérieur. Il soudoie aussi un certain nombre de conseillers du gonfalonier. Il promet monts et merveilles au gonfalonier lui-même. Dans ses mémoires, il dira plus tard « Pauvre Jean ». Puisque c'était de l'argent qu'ils voulaient, ils auraient pu obtenir 10 000 florins et davantage pour me délivrer des dangers d'une pareille situation. Sous-entendu, ils n'ont pas demandé assez, mais ça c'est souvent le cas lorsqu'on est face à un très grand négociateur. Bref, Côme n'est pas assassiné, il va pouvoir comparaître à son procès pour sédition. On a créé une cour spéciale qu'on appelle une balia à Florence. Les Médicis sont des ennemis cruels et sanguinaires, dit l'acte d'accusation. Des promoteurs d'incendie et de dévastation, des natures diaboliques. Leur présence n'avait été tolérée que grâce à la longue patience du peuple florentin. Et le conseil spécial va condamner Côme de Médicis à l'exil. Et c'est pas un petit exil, 10 ans d'exil. Il va donc devoir quitter Florence. Il va aller s'installer à Venise, dans l'autre république, là-haut, au nord-est. Et sur le chemin, quand Côme de Médicis quitte Florence pour partir en exil, les Florentins sont là, qui l'ovationnent. Ils n'ont pas oublié la popularité de son propre père. Et déjà certains, non seulement espèrent son retour, mais œuvrent dans ce sens. Alors à Venise, il va être accueilli comme un hôte de prestige. Le doge en personne l'installe royalement au monastère de San Giorgio Maggiore. Vous savez, sur cette très belle île au milieu de la lagune de Venise, c'est sublime. Côme en profite pour tisser des liens avec un certain nombre de négociants de la cité de la Sérénissime. Il invite les peintres, les architectes locaux, un certain nombre de grands auteurs. C'est un homme qui aime la culture. Il va d'ailleurs faire bâtir une bibliothèque à Venise. Et pendant ce temps, à Florence, eh bien, à Florence, c'est la révolte qui gronde parce qu'il a stipendié un certain nombre d'agents qui vont agiter la foule. Les proches des Médicis contestent l'exil de Côme et contestent le pouvoir du Gonfalonier qui se trouve être un Albizzi à ce moment-là, la famille dominante des Albizzi, de cette oligarchie. Évidemment, la contestation est réprimée. Albizzi fait décapiter 2 opposants qui étaient soupçonnés de complot. Il fait même torturer 3e opposant. Il l'exile à son tour. Et après quelques mois, la République de Florence va connaître un de ces retournements de situation qui ont fait toute son histoire. Nouveau tirage au sort qui porte au pouvoir des magistrats et un gonfalonier beaucoup plus favorable aux Médicis cette fois. Et Albizzi va essayer de les faire arrêter. Il se débat comme une mouche dans un verre de lait. Il essaie d'empêcher les attroupements favorables à Côme. Il n'y peut rien. Dernier personnage qui intervient, et c'est très important dans la péninsule à l'époque, c'est le pape en personne, c'est Eugène IV, qui se trouve justement à Florence. Côme a eu l'habileté de se faire un allié du pape. Je vous ai dit que le pape est un de ses débiteurs, évidemment. Et le pape est bien décidé à préparer le retour des Médicis à Florence. Il réunit une partie des seigneurs. Il leur demande des milices pour tenir la ville. Il provoque la constitution d'une nouvelle balia, une nouvelle cour particulière, si vous voulez, pour cour spéciale, pour juger, rejuger Côme. Et on va annuler la condamnation à l'exil. Ce qui fait que le 5 octobre 1434, on est exactement 1 an après son éviction, je vous permets de vous rappeler qu'il était condamné à un exil de 10 ans, Côme de Médicis. Eh bien, 1 an après son éviction, le voilà qui rentre à Florence, sous les hurrahs de la foule, animé par un véritable désir de revanche. Non, non, la vérité, c'est qu'il est animé par un désir de vengeance. Le prélude du premier acte des Médicis de Léon Cavallo par l'Orchestre Philharmonique de la Scala sous la direction de Riccardo Chailly.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, Côme de Médicis ne va plus se laisser faire, là, vous pouvez imaginer. Il fait tout de suite arrêter les Albizzi et tous leurs alliés, d'ailleurs, et les traduit devant un tribunal, le Conseil des 8. Et il les fait condamner à mort, à la décapitation, sauf qu'au dernier moment, ça c'est de la bonne politique, il retient la main du bourreau et se montre magnanime. Il fait commuer la peine de mort en un exil de 8 années. Et le 1er janvier 1435, le voilà qui devient lui-même gonfalonier. Il détient ce pouvoir dont il n'a depuis sa jeunesse cessé de rêver. Côme de Médicis ne sera pas le gonfalonier sage, légaliste que son père avait été et que son oncle aussi avait été avant lui. Non, là on est à l'époque des purges en profondeur. Il s'agit d'éradiquer toute forme d'opposition à Florence. 97 oligarques sont littéralement bannis, 80 sont privés de leurs droits et tous les biens des Albizzi sont confisqués carrément. C'est la fin de la famille. Et Côme de Médicis désigne le prochain gonfalonier qui est un proche, qui sera Bartolomeo Gherardi. Et année après année, les bannissements vont continuer. Machiavel lui-même s'en étonnera. C'est Nicolas Machiavel qui dit « On était proscrit non pas seulement pour être de l'autre parti, mais simplement pour sa richesse, ou pour sa parenté, ou même pour ses amitiés. » Médicis installe dans tous les postes des hommes à lui, magistrature, finance, commerce, en fait, etc. Et pas seulement des aristocrates. Il lui arrive d'aller chercher des roturiers, de simples bourgeois, dont il règle les dettes et qu'il fait accéder à des responsabilités. Vous imaginez, à partir de là, ils sont totalement à sa dévotion. Il a une formule, comme de Médicis, il dit « Quelques zones de drap rouge suffisent pour faire un seigneur ». Ben oui, c'est souvent l'habit qui fait le moine, n'est-ce pas ? Plus question, évidemment, de laisser le tirage au sort désigner les membres de la seigneurie de Florence. Si le tirage est mauvais, on annule, on désigne un autre ministre. Même chose pour les 8 membres du haut tribunal. Bref, Côme a permis à sa famille de régner sans partage. Et il interdit tous les rassemblements en public, même au cours des mariages qui doivent rester discrets et en petit nombre. Si une famille est un peu suspecte, Côme s'arrange pour qu'elle soit ruinée. Quand on est à la tête d'une immense banque, évidemment, ça aide. Il fait en sorte que ses opposants soient interdits de commerce, qu'ils soient écrasés par des impôts exorbitants. Bref, il instaure la tyrannie des Médicis sur Florence. Ce ne sont plus des maîtres de la finance maintenant, ce sont les maîtres de la République elle-même. Sans lui, rien ne se fait. Sans lui, Florence n'est rien, dit l'ambassadeur de Milan, qui voit tout cela un peu effondré. Et Côme tient à rester lui-même en retrait. Il essaie quand même de suivre la leçon de son père. Il n'a pas de titre officiel. On l'appelle, quand on parle de lui, on parle du grand marchand, simplement. Et pour en finir avec les guerres, il lui faut une république qui soit forte. Alors il va payer des chefs de troupes mercenaires, des condottiere, et il va nouer des alliances avec le pape, avec Sienne, avec Venise, c'est facile, avec pour but de tenir à distance ce fameux duché de Milan là et son duc de Visconti. Ça c'est difficile parce que Visconti lance sur la république de Florence une armée de 9000 hommes. Sauf que Florence est riche, qu'elle lève une armée commandée par Sforza. Ça va tout changer dans la politique milanaise, ça. C'est une autre histoire. Bref, c'est la bataille d'Anghiari qui a lieu en 1440. Les Milanais vont être obligés de battre en retraite après quelques heures, 4 heures seulement. Il s'agissait en fait pour les Milanais, c'était une intimidation. Il s'agissait juste de montrer les muscles. Et puis on pensait qu'on allait devoir faire demi-tour. Sauf que, et d'ailleurs on avait recruté des paysans comme ça à la va-vite, c'était pas des vrais soldats. Machiavel va s'en moquer d'ailleurs. Il n'y eut de tuer qu'un seul homme, dit-il, qui encore ne périt pas par le fer ennemi, mais simplement tomba de cheval. Bon, ça n'en est pas moins pour Florence une victoire symbolique et pour Côme une victoire définitive qui renforce sa puissance et l'indépendance de la République. Ça va d'ailleurs donner lieu, vous savez, la bataille d'Anghiari à une fresque de Léonard de Vinci dans la grande salle du Palazzo Vecchio, mais c'est la fresque qui ne tiendra pas, qui s'effondrera en partie, qui sera recouverte par la suite. Après cette ultime déception, l'ennemi de Côme, Albizzi, est obligé de se retirer à Ancôme et puis de là, il va vivre en Terre Sainte. Il mourra au retour d'ailleurs. Maintenant, il n'y a plus de limite à la puissance de Côme de Médicis. Et en avril 1454, il va signer la paix de Lodi entre les États du nord de l'Italie, les grands cinq, la République de Florence, la République de Venise, le duché de Milan tenu par les Visconti, donc les États pontificaux, et puis le royaume de Naples qui est aux mains des Aragonais à l'époque et qui couvre tout le sud de la péninsule. La paix ouvre une période d'essor absolument extraordinaire dans le domaine du commerce maritime, de l'agriculture, du textile. On a planter des mûriers pour fabriquer de la soie, vous savez. On fait construire partout des logements de pierre à la place des baraquements de bois sur les rives de l'Arnaud. La République devient très prospère, extraordinaire. C'est Henri Pigagnin qui nous décrit la vie de Côme. Lui mène tout dans le secret, nous dit-il. Pour dissimuler sa volonté de puissance, il préfère ne pas s'afficher et ne paraît jamais en personne dans le gouvernement de la République. Il se retire périodiquement dans sa cellule du couvent San Marco, décorée par une adoration des mages de Fra Angelico pour satisfaire à l'idéal de vie monastique, donnant à son esprit le repos laissé par la politique. Il lit, il étudie assidûment l'écriture sainte. Incroyable, il a fait de cette Florence du Quattrocento la cité des arts, de la méditation et de l'excellence. Le prélude au prologue du Méphistophélée de Boïto par l'Orchestre Philharmonique de La Scala, toujours dirigé par Riccardo Chailly.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est un mécène, Côme de Médicis, un collectionneur incroyable. Il s'est fait bâtir un palais sur la Via Larga, le palais Médicis, bien sûr, qui s'appelle aujourd'hui le palais Médicis Riccardi. Il l'a fait faire par Michelozzo. Et puis, une bibliothèque fantastique où sont resserrés des manuscrits rarissimes, grecs, hébraïques, arabes, chaldéens, avec tous les grands auteurs de l'Antiquité, notamment les platonicien et Platon lui-même. Il a d'ailleurs, sur le modèle de l'Académie de Platon, créé une Accademia à Florence. L'esprit de Platon quitta Byzance pour Florence et s'envola chez Côme de Médicis, nous dit Marcile Fissin, qui était le directeur de cette Académie. Extraordinaire. On est vraiment dans l'efflorescence de la grande Renaissance, née ici à Florence et qui prend un nouvel envol. Il ne regarde pas à la dépense, Côme de Médicis, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va donc commander, c'est lui qui commande à Fra Angelico ces fabuleuses fresques du couvent San Marco, incroyable. Et puis alors, il y a le chef-d'œuvre, le Duomo, cette cathédrale Santa Maria del Fiore avec sa coupole qui fait 42 mètres de diamètre. À l'époque, personne ne savait comment on pouvait finir une coupole comme celle-là. Eh bien, Brunelleschi va le savoir et va le faire savoir à l'Europe entière pour la plus grande gloire des Médicis.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et Côme maintenant règne sans aucun partage, à un point même que, ayant accompli tout cela, il se dit que maintenant il peut desserrer l'étau. Et il va rétablir au sein du gouvernement de Florence, il va rétablir le tirage au sort. En 1458, un gonfalonier est désigné, c'est le banquier Pitti qui va organiser un putsch. Ça, c'est ce qui arrive quand on veut desserrer un peu trop vite, vous voyez. Un putsch qui verrouille les institutions. Et Côme, le génie politique, Côme qui est à l'origine de toute cette extraordinaire efflorescence, va se retrouver évincé du pouvoir. Oh, ça n'empêche pas de rester immensément riche et donc intouchable et puissant. Il attend qu'on le rappelle. Il a 70 ans maintenant, Côme de Médicis. Il souffre de la goutte, il a des fièvres, une maladie rénale. Et oui, la nature est la même pour tous, n'est-ce pas? Il se retire le plus qu'il peut au milieu de ses livres extraordinaires. Quand je dis des livres, on est tout juste en train d'inventer l'imprimerie. Donc ce sont des manuscrits enluminés, sublimes, bien sûr, et d'une rareté folle. Et il va finir par s'éteindre en août 1464. Et de nouveau, comme on avait vu avec Jean de Médicis en février 1429, eh bien, en août 1464, c'est une foule très nombreuse qui accompagne à sa dernière demeure celui que la seigneurie a fini par déclarer père de la patrie. les dernières années de sa vie, Côme de Médicis, qui s'était retiré au milieu de ses vignes et de ses fabuleux manuscrits, Côme de Médicis, qui était quasiment devenu une sorte de philosophe du pouvoir, ce pouvoir qu'il avait exercé avec tant de force, pour ne pas dire de brutalité parfois, Côme de Médicis s'était consacré à l'éducation de ses petits-enfants, Laurent et Julien. Il avait fondé de grands espoirs sur Laurent, parce qu'il avait compris que cet adolescent était incroyable, qu'il était précoce, qu'il était lumineux. Oh, il avait raison, le Laurent en question, vous ne l'appelez depuis que Laurent le Magnifique.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Pierre Anquetin pour ce bain florentin. Et voici notre Christian Morin National. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck, à propos de magnifique, j'aime beaucoup leur petite villa à Rome. Voyez-vous, qui domine un petit peu. D'ailleurs, elle était construite là, je crois, pour être un peu plus haute que le Vatican hein, dans l'histoire.
Oui, elle supervise un peu l'ensemble.
C'est magnifique. Voilà une petite balade si vous allez du côté de Rome. Vous savez qu'avec Franck, on a évoqué le Historia de ce mois-ci, dont la couverture vous propose d'évoquer le dernier âge d'or des gladiateurs. Eh bien, le Gladiator 2, je suis allé le voir hier. Oui. Certains pisse-vinaigre disent, ou spécialistes disent, oh, mais non, c'est moins bon que le premier. Pas du tout. Non, c'était pas tant grand fresque musicale. Et puis,
et nous avons demandé à Éric Tessier d'aller voir justement ce qui, dans ce film, était historique et ce qu'il l'était moins. Ce qui permet aux gens qui ont vu le film, grâce à toutes ces pages que nous consacrons à la fin des gladiateurs, de distinguer le vrai du faux.
Voilà, mais c'est très intéressant, donc allez voir le film, et puis ensuite vous lisez Historia, et comme ça, vous pourrez tirer des conclusions non hâtives, mais historiques. mon cher Franck, cet après-midi, alors vous allez
on parler de... On remet ce soir, Christian, puisque vous me tendez la perche, j'en profite, oui. On remet ce soir les prix Historia, figurez-vous.
Ah, très bien.
Donc pour nous, c'est la... Nous revêtons nos habits de fête ce soir et c'est Historia qui est à l'honneur.
Où est-ce que ça se passe ?
Ah, ça se passe boulevard de Grenelle, aux Échos,
dans
n'est-ce pas ?
Oui,
dans
des Échos.
Non, dans le grand auditorium. Oui.
Dans le grand auditorium, que connais
vous connaissez bien.
Vous m'avez reçu pour un anniversaire.
C'était même votre jubilé, mon
oui,
cher
voilà, en quel ne me vieillissez pas. L'aviatrice d'Hitler cet après-midi.
Ah oui, ça, c'est une histoire.
Haut en couleur.
Oh, oui, c'est une histoire inouïe.
C'est vrai qu'il avait découvert, on voyait qu'il avait quand même pris les devants sur les déplacements politiques. Il pouvait être dans différents endroits grâce à l'aviation.
Oui,
Était-ce celle-ci qui pilotait ? Vous nous raconterez tout cela cet après-midi, 14h avec Franck Ferrand, et demain matin, votre retour. Merci.